Chapitre 11. Avant le duel, langage muet. Ce pistolet avait si merveilleusement et si naturellement l'air, la physionomie et le langage d'un habitué aisé de l'estaminet de l'épicier, que M. Lecoq, célèbre cependant par la justesse de son coup d'œil, eut vaguement l'idée de l'avoir vu à l'œuvre un jour ou l'autre. Ce n'était pas l'heure des longs interrogatoires ni des examens détaillés. Un bon ouvrier de plus ne pouvait être indifférent dans les circonstances présentes. Pistolet passa ici comme à la ferme, et même mieux, car, sans affronter le danger de paraître trop savant, il se servit de ce qu'il avait appris aux écoutes et conquit du premier coup une position de confiance. Le fils Goré fut remis entièrement à sa garde. Il en répondit corps pour corps. Il eut ordre en outre de se tenir à la disposition du conseil jour et nuit. Ceci réglé, il put conduire le parricide à l'office. C'était une bonne et secourable nature. Il bourra son prisonnier comme un canon. Le fils Goré avait vu aujourd'hui des quantités de choses, mais il n'avait rien compris à ce qu'il avait vu. Une seule idée le travaillait, c'était l'espoir d'être riche et de dîner du matin au soir. Pistolet prêtait une oreille indulgente aux rêves de ce naïf appétit, mais cela ne l'empêchait pas de réfléchir. Il avait, Dieu merci, des sujets de méditation par-dessus la tête. Que diriez-vous d'un chasseur paisible qui a pris son fusil un matin pour abattre un lièvre ou deux et qui se trouve tout à coup au milieu d'une ménagerie de bêtes féroces? Les Gérard et les Bombonnelles sont rares. Pistolet s'avouait qu'il y avait bien du fil à retordre. On l'avait mis sur la piste d'un crime ancien. Dans cette voie, il ne s'agissait pas d'autre chose que de livrer un ou deux malfaiteurs à la justice. Et voilà que, dès le premier pas, il rencontrait tout un ensemble de crimes nouveaux qui se brouillaient, se croisaient, enjambaient l'un sur l'autre. L'un, à tout le moins, commis déjà, les autres préparés et sur le point d'arriver à exécution. Thérèse Soulas, il l'avait quittée depuis quelques heures à peine, avec un pressentiment, avec un scrupule, et il venait d'entendre l'écho lointain du coup de feu qui la jetait morte sous la feuillée. Car au contraire du fils Goré, Pistolet comprenait tout. Il savait à fond l'affaire de la reine Mathurine, comme si on la lui avait expliquée par le menu. Il savait mieux encore le sort destiné au pauvre éclopé. Quant aux menaces suspendues sur la tête de Paul Labre, il en eut au besoin fait un rapport, lucide comme ceux de ce bon vieux colonel au conseil des habits noirs. Auquel entendre cependant où aller, ces gens marchaient vite et il fallait les gagner de vitesse. Cette hideuse vieille, la Gorée, était une créature humaine après tout. Était-il sage de l'avertir? Elle ne croirait pas, on l'avait affolée. D'ailleurs ici, le danger n'était pas imminent, on ne pouvait la liquider et qu'après le mariage. Dénoncer le tout au parquet, Pistolet était un gamin de Paris, et sa confiance dans les tribunaux ne dépassait pas un certain niveau, sa confiance en lui-même n'avait point de borne. Et le plus pressé, sans contredit, était Paul Labre, sac à papier, le bel amoureux, et presque une voix de basse-taille. Mais que diable était-il venu faire parmi ces vils coquins? Ces jolis garçons-là ne devraient jamais bouger, autant de pas, autant de sottises. La première idée de Pistolet fut de se rendre chez M. le baron pour prendre langue et surtout pour lui intimer l'ordre de rester tranquille. Cela lui semblait très simple, il avait une conscience si nette de sa supériorité. Mais cette justice même qu'il se rendait lui donna à réfléchir. Parler à Paul Labre, c'était déjà compter avec lui. Paul Labre allait peut-être lui faire des objections ou bien lui donner des ordres. « Le monde renversé, quoi » s'écria-t-il, sans savoir qu'il parlait. L'écopé lui répondit la bouche pleine. « Quand j'aurai l'argent de maman, je vous paierai à boire pour que vous m'entriez dans les auberges. Moi, je ne suis point assez hardi. »« Tais-toi, bancroché aval !» ordonna Pistolet. Non, il ne fallait pas aller chez Paul Labre. Rien qu'à se montrer ainsi, on compromet sa toute-puissance. Voyez si, dans les drames, l'homme qui sauve ne tient pas toujours dans son nuage. Il fallait sauver Paul Labre en dehors de lui et malgré lui. « Pas vrai, Bancroche ?» fit le gamin, content de son idée. Si tu veux retirer un quelqu'un de l'eau, tu commences par l'étourdir un petit peu, sans le blesser dangereusement, pour pas qu'il te gêne. Vous osez bien entrer dans les auberges, vous? Demanda Vincent. La paix, je te formerai en grand quand j'aurai fini avec Monsieur Labre. On ne peut pas protéger tout le monde à la fois. Nous irons dans la capitale, où je t'apprendrai l'art de manger des millions, à Bobino, avec des dames, en se rangeant. Il y a beaucoup d'auberges d'ici à Paris, pas vrai? Demanda l'innocent. Autant que de crin sur ta caboche, abruti. Coupe ta langue, je combine. Vincent Goré, plein de cidre et de nourriture, avait ce songe voluptueux. Il voyait une grande route sans fin, toute bordée d'auberges, et il n'en passait pas une. Il entrait dans chaque, il buvait, il dévorait, et son estomac, prodigieux comme son rêve, n'avait plus de bornes. Il avalait tout le poiré, tout le lard et toutes les pommes de terre du globe, sans en éprouver la moindre incommodité. Voilà, dit tout à coup Pistolet, qui prit un ton professoral. Le jeune homme du peuple parisien ne connaît pas les chevaux de l'Arabie du désert. Chaque contrée, chaque truc. Le chinois est pour la porcelaine, l'américain est pour les tabatières parapluies, qui servent aussi à griller les côtelettes et à ramer les pois verts. L'italien est pour la fumisterie et chanter des tyroliennes. Sais-tu mener un cheval, bêta? Oui, dame, oui, répliqua Vincent. Et sais-tu où trouver deux chevaux? Tout de même, dans les prés du bas. Lève-toi et file. Il y a encore des patates, fit Vincent. Il ne faut point les laisser. Disparais. Nous allons chevaucher. Je m'en suis donné une fois du bœuf à la mode sur les locaties du bois de Vincennes avec mèche. Garçon! Un domestique du château vint à l'ordre. Si on vous demande, lui dit Pistolet, où est le jeune Fashionable arrivé de Paris, moi, 100 ans, vous répondrez qu'il promène un peu le parricide pour sa santé. Allume, bancroche. Il poussa devant lui Vincent et sortit. Un quart d'heure après, ils couraient tous deux, à poil, sur des chevaux pris à la pâture. Pistolet avait dit, route de la Ferté-Macé, je veux te présenter à Monsieur Badoit, qu'aiment les adolescents propres et instruits comme toi. J'ai mon plan. Nous allons faire l'effet du quatrième acte, huitième tableau, décor du ravin du Val Sinistre, avec gendarmes, forces armées, mousqueterie et la garniture. Le bœuf à la mode se mitonne ici-dessous, Zéphyr. À la noce, je m'amuse. Au Châteauneuf, il y avait grande parade, gala général et présentation de Mathurine Gorée, reine de France et de Navarre, à la noblesse des environs. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Paris et la province ont des folies d'un genre très différent. Paris ne croirait pas aux splendeurs grotesques qui marquèrent cette cérémonie. La reine Gorée surtout y dépassa tellement les limites du comique possible que la chevalière, le Camus de la Prunelée, quitta la table avant le dessert. Le chevalier resta comme un fonctionnaire public. Entre la poire et le fromage, le beau Nicolas, usant des privilèges de sa race, eut la générosité de guérir plusieurs personnes affligées d'écrouelles. Ce fut un beau jour. Bien des projets surgirent pendant qu'on prenait le café. La reine daigna écouter l'ancien élève de l'école qui lui signalait les dangers d'un retour trop brusque au système de la féodalité. Elle lui lança même un coup de poing dans le dos en demandant combien de temps il lui faudrait garder chacun de ses favoris. Elle se plaignit plusieurs fois de la colique. Tout pour le bonheur de la France, tel était le thème du chevalier, le préfet de l'avenir, qui tomba enfin sous la table. Le neveu du Molard en était venu à exiger 28 bureaux de tabac. Poulain stipulait qu'on promènerait des têtes de garde champêtre dans les chemins vicinaux au bout d'une pique. L'important fut que Mathurine, enthousiasmée de son succès et toute heureuse de voir combien il est facile de gouverner un état de premier ordre, consentit à quitter la Normandie pour visiter la capitale. Elle ne mit pas d'autre condition à ce déplacement, sinon que son mariage serait célébré par l'archevêque de Paris dans sa cathédrale. Ce départ pour Paris était un gros problème, résolu au point de vue de l'affaire. La route de Paris, pour une femme comme Mathurine, ressemble à la route de Corse, et la question de passer la mer n'était rien. Une fois la Richarde entrée les mains des frères de la Merci à Sartène, ses millions au soleil devenaient des fruits mûrs qu'il ne s'agissait plus que de cueillir. Aussi, monsieur Lecoq de la Perrière, qui avait été absent presque toute la journée depuis sa réconciliation si franche avec le fils de Saint-Louis, reçut-il d'un visage riant le bouquet des bonnes nouvelles. Il en apportait d'excellentes aussi, tout était prêt pour le duel du lendemain. La mort de la Soulas se faisait déjà grand bruit dans le pays. La note de Pierre Labre était décidément acquittée. Le chevalier préfet ne s'était point trompé. Paul Labre avait passé la journée à chercher des témoins et n'en avait point trouvé. Parmi les gentilshommes et propriétaires des environs, ceux qui ne donnaient pas dans la conspiration en avaient peur. Paul Labre était rentré chez lui vers 8 heures du soir, triste et fatigué. Il avait essayé en vain de joindre Isole. En traversant le bourg de Mortefontaine, il fut surpris de voir avec quel soin les patients l'évitaient. Derrière lui, on chuchotait et on se disait « Il a encore le fusil ». Son domestique normand lui demanda d'un ton que Paul trouva étrange s'il n'avait point monté ce jour-là jusqu'à la belle vue du fou. Le souvenir de sa rencontre avec Isole amena le rouge à son front. Le valet l'observait. « Non, répondit Paul par un sentiment de discrétion qui se rapportait à mademoiselle de Champmas. Le valet secoua la tête et s'éloigna en murmurant « Tant mieux pour vous, notre monsieur ». La servante vint lui offrir à dîner. Il refusa et la servante dit « J'ai bien pensé que vous n'auriez point le cœur à l'appétit ». De même que le valet, la servante ne fit nulle mention de la tentative du général pour entrer dans la maison. Et tout à l'heure, nous connaîtrons le motif de ce silence. 9 heures venaient de sonner à la pendule de Paul. Il était seul dans sa chambre et songeait. Nul de ses serviteurs n'était venu allumer sa lampe. Sa pièce n'était éclairée que par un rayon de lune tombant à travers la mousseline des rideaux. Depuis bien des jours, Paul n'avait point senti si lourdement le poids qui pesait sur son cœur. C'était une chose inexplicable. Quelques heures à peine le séparaient du plus vif bonheur qu'il eût éprouvé en sa vie, et rien ne lui restait de cet instant d'allégresse passionnée, sinon un sentiment d'amertume et de vague douleur. Il avait l'âme, si l'on peut ainsi dire, plus meurtrie et plus découragée que jamais. L'amour n'a pas besoin de paroles, et les paroles ne font rien à l'amour. Dans le souvenir, sensible comme une plaie que lui laissait son entrevue avec Isole, il s'étonnait de ne point trouver d'amour. Elle était venue pourtant d'elle-même elle avait choisi Paul. Pouvait-on croire qu'elle n'avait eu d'autre mobile que sa haine? Elle avait dit « j'aimerais », elle avait presque dit « j'aime ». Mais vous avez remarqué combien l'ouïe du souvenir est plus subtil et plus sûr que l'oreille la plus délicate. C'est en se souvenant qu'on trie les nuances, qu'on reconnaît les demi-teintes. De toutes nos facultés, la mémoire est assurément celle qui servit davantage le génie observateur des poètes et le talent espion des diplomates. Paul écoutait de nouveau en lui-même la voix grave et douce de cette belle Isole. Tout son être tressaillait à ce ressentiment d'une volupté unique en sa vie, mais il ne retrouvait plus dans cette adorable voix la vibration émue qui l'avait fait tressaillir. Tout se calmait à distance et tout se neutralisait, à ce point que la haine elle-même disparaissait comme l'amour. La haine d'Isole, la belle et profonde haine de la Vierge outragée, la colère qui avait mis de si magnifiques éclairs dans ses grands yeux. Cela brillait faux maintenant, cela ne sonnait pas juste. La haine semblait factice comme l'amour. Pourquoi, cependant, et à quoi bon cette laborieuse comédie jouée vis-à-vis d'un étranger? Paul rêvait ainsi, et il souffrait de cette angoisse confuse qui fait ressembler certains regrets à des pressentiments. La lune s'était voilée sous son nuage, faisant la nuit complète à l'intérieur de la chambre. Dans cette obscurité profonde, Paul entendit un mouvement léger. Le nommerais-je fluidique, ce lien mystérieux, ou le ferais-je, comme c'est plus vraisemblable et moins matérialiste, complètement étranger au corps? Les spirites amoncellent beaucoup de mensonges autour d'une vérité qu'ils n'ont point inventée, la communication entre les âmes. On ne sait comment cela est, mais cela est. Les âmes se touchent à l'aide d'organes inconnus. Ce bruit si faible, ce mouvement presque imperceptible, fit tourner la rêverie de Paul et appela vers lui la pensée de Suavita. Il la repoussa d'abord, car elle venait, distraction importune, troubler sa méditation douloureuse et bien-aimée à la fois. Puis il fit comme les bons cœurs qui écoutent malgré eux la tendre pitié, comme Jésus qui laissait venir à lui les petits-enfants. Il ne se défendit plus contre cette douce diversion. Il lui sembla qu'elle soulageait sa peine. Il se le dit, car ces solitaires parlent souvent tout haut. Il prononça le nom de Blondette, comme il avait répété tant de fois le nom d'Isole ce soir. Un soupir sortit de l'ombre. « Est-ce que tu es là, fillette ?» demanda Paul malgré lui. Et certes, il n'attendait point de réponse. Mais un pas furtif effleura le parquet, et la lune, qui émergeait hors de la nuée, éclaira la forme gracieuse de la pauvre petite muette. « Petite folle !» murmura Paul. « Je n'ai pas le cœur à jouer. Voulais-tu me faire une niche ou me surprendre ?» Blondette continua d'avancer. Paul l'attira contre lui et, selon sa coutume, essaya de lire sa réponse dans ses yeux. « Tu ris, dit-il, espiègle. » La lumière de la lune est trompeuse, Blondette ne riait pas. Paul sentait son sein battre violemment. Il crut entendre un sanglot. « Qu'as-tu donc, chérie ? » interrogea-t-il, tout inquiet déjà. Blondette appuya sa tête contre sa poitrine. Paul, effrayé, prit une allumette et l'enflamma. En approchant le feu de la bougie, il put voir le charmant visage de Suavita, rouge à force de pleurer et encore tout inondé de larmes. Paul aimait cette pauvre chère enfant mieux qu'un frère aîné, comme un père. Il croyait cela, du moins. Il ne savait pas que l'amour qu'il entraînait vers Isole et dont il souffrait était une maladie. Il ne savait pas que ces maladies d'amour se guérissent par l'amour. Il eût donné beaucoup pour le savoir, ce digne et grave cœur, attardé dans les ignorances enfantines. Car s'il ne se connaissait pas lui-même, il avait deviné les premiers battements du sein de Suavita. Et il désirait si passionnément la faire heureuse. C'était la parole qu'il lui rendait en allumant la bougie, car Suavita n'était vraiment muette que dans l'obscurité. Dès que ses grands yeux étaient éclairés, il se mettait à parler. Paul interrogea ses beaux yeux éloquents où il lisait si couramment d'ordinaire. Les yeux de Suavita parlèrent en effet, mais ils parlèrent un langage inquiet, confus, que Paul, étonné, ne sut point déchiffrer aujourd'hui. C'est que cette langue chère qui leur servait à converser ensemble avait bien peu de mots, et tous les mots qu'elle avait se rapportaient à leur mutuelle situation. Il savait dire ces mots combien l'enfant aimait, chaque jour davantage et mieux, comme elle était heureuse quand son ami revenait, triste quand il partait. Il savait exprimer aussi, depuis quelques semaines, cette douce, cette adorable jalousie de la Vierge qui souffre en tâchant de sourire. C'étaient des mots charmants, mais qui ne pouvaient pas tout dire. En face d'une idée nouvelle ou complexe, Suavita redevenait muette, ou plutôt, elle avait beau parler. Paul restait impuissant à la comprendre, comme si, en tournant la page d'un livre favori, il fût tombé tout à coup sur des lignes écrites en langues étrangères. Tel était ici le cas. Du premier coup d'œil, Paul Labre vit que sa petite amie avait à lui dire des choses qui sortaient de la gamme habituelle de leurs entretiens. Leur silencieux vocabulaire ne contenait point les signes qu'il fallait pour exprimer ses idées, et ses idées étaient graves, car pour la première fois, Blondette, dans son impatience d'être comprise, fit un effort visible et douloureux pour articuler des sons. Sa gorge se contracta, les lignes gracieuses de sa bouche rompirent leur harmonie, puis elle porta ses deux mains à son front avec découragement. « Mais qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce donc, chérie ? » demanda Paul en l'attirant contre sa poitrine. « Tu as donc beaucoup de chagrin ?» Les yeux bleus dirent « oui » et exprimèrent un espoir joyeux. « Interroge-moi, » semblait demander l'enfant. « Cherche, essaie !» Ceci était dans le dictionnaire de leur causerie. Paul comprit et obéit aussitôt. « Quelqu'un t'a-t-il fait du mal, chérie ?» Le doigt de Suavita toucha la poitrine de Paul qui fronça légèrement le sourcil. Mais elle secoua aussitôt sa tête blonde avec pétulance, comme si elle eût voulu dire « Non, non, il ne s'agit pas de ma jalousie qui t'impatiente. » Et ses yeux bleus, levés vers le ciel, ajoutèrent « Plût à Dieu qu'il ne s'agit que de cela. »« As-tu vu quelqu'un ?» demanda Paul. Les paupières de Suavita s'étaient séchées sous l'effort du grand travail qu'elle faisait pour exprimer sa pensée. Une nouvelle larme vint se balancer à ses cils. « Mais tu me fais mourir, fillette !» s'écria Paul. Elle serra sa main si fortement sur ce mot « mourir » que Paul la regarda, effrayé. Il y avait dans la prunelle de Suavita un feu sombre qui soulignait énergiquement et volontairement ce mot « mourir ». « Quelqu'un est-il mort ? » reprit Paul Labre. « Oui, quelqu'un que tu connaissais ? Oui, que tu aimais ? Toujours oui. » Paul avança la main pour prendre la sonnette. « Le plus court est d'interroger les domestiques, pensa-t-il tout haut. » Mais Suavita secoua la tête vivement. « Tu ne veux pas ? » reprit Paul. « Pourquoi ne veux-tu pas ?» Pour la seconde fois, le doigt de l'enfant toucha sa poitrine comme pour le désigner lui-même. « Ma foi, blondette bien-aimée, dit Paul, c'est de l'hébreu pour moi. » Elle fit encore un grand effort qui amena du sang à ses joues. On eût dit que les paroles allaient enfin jaillir de ses lèvres. « Je ne t'ai jamais vu ainsi, reprit Paul Labre, ta raison est tout à fait revenue. » Suavita l'interrompit d'un geste péremptoire qui signifiait « tout à fait ». Il voulut l'embrasser, elle s'arracha à son étreinte et gagna en deux bonds la table où étaient la plume et l'écritoire. Elle saisit la plume. C'était si extraordinaire et si nouveau que Paul Labre demeurait stupéfait. Savait-elle écrire? Mais la plume, trempée dans l'encre résolument, hésita entre les jolis doigts de la fillette qui mit sa tête dans ses mains en pleurant. « Tu as oublié, pauvre amour, dit Paul Labre, qui tâcha de sourire. L'émotion le prenait. Il ajouta, pour la cacher, « Tu ne devais pas être encore bien savante. » Suavita sanglotait. Elle se leva soudain d'un mouvement violent et courut dans l'embrasure où Paul avait déposé son fusil de chasse. Elle le lui montra d'un geste raide et qui eût fait peur à toute une salle de théâtre. « Eh bien, fit Paul, dont la voix s'altéra. Elle mit le fusil en joue. « En a tué quelqu'un ? Commença Paul. » Elle rejeta brusquement le fusil et croisa ses bras sur sa poitrine. Puis, échevelée, tragique, elle revint vers Paul et lui toucha le bras. « Moi ? » fit-il au hasard, et il s'arrêta ébahi parce que les yeux de l'enfant répondaient « oui ». « Est-ce la folie qui vient, la vraie folie ? » balbutia-t-il avec un serrement de cœur. Elle secoua son bras fortement et son regard aussi net qu'une parole affirma « non, je ne suis pas folle ». Mais elle ne put aller au-delà, et ses belles petites mains se tordirent avec désespoir. « Nous voyons, » reprit Paul, qui avait de la sueur aux tempes, « calme-toi, tu sais bien que nous nous comprenons toujours à la fin. Je n'ai pas été tué. Est-ce moi qui ai tué ?» La tête de Suavita tomba sur son sein. « Oui, » interrogea Paul. Les beaux yeux humides de l'enfant répondirent affirmativement. « Si tu crois cela, toi ?» Il n'acheva pas parce que les deux bras de Suavita se pendirent à son cou. Par un mouvement plus rapide que la pensée, elle colla ses lèvres à celles de Paul. Ses lèvres brûlaient, et puis elle s'enfuit à l'autre bout de la chambre. Paul resta tout tremblant sous le choc de ce baiser virginal et ardent. Son premier pas le porta vers l'enfant qui frémissait loin de lui, mais il s'arrêta à la contempler si merveilleusement gracieuse et jolie. On eût dit une étude de la pudeur adolescente échappée à la fantaisie d'un maître du pinceau. Elle était fière, mais douce. Elle se repentait, mais par l'instinct seulement. Elle naissait femme, et il semblait qu'il y eût autour de son sourire farouche un reflet d'immaculée volupté. En ce moment, peut-être, Paul entrevit le fond de son propre cœur, mais tout cela passa comme un éclair. Suavita, par un geste admirable d'expression et de dignité, mit fin à cet épisode imprévu. Et puis, comme Paul la fixait toujours de son regard interrogateur, elle revint vers lui, tenant à la main un petit médaillon de cristal qui pendait à son cou. La peur nous tient que le lecteur ne prenne ce petit médaillon pour un meuble de mélodrame, d'autant qu'il contenait une mèche des cheveux de feu Madame la Comtesse de Champmasse. Sans mépriser le génie des écrivains habiles qui se servent de pareils bijoux pour amener d'importantes péripéties, nous croyons n'avoir jamais abusé de la croix de ma mère. Le lecteur peut compter sur nous. Le médaillon était tout uniment un cadeau de la pauvre Thérèse, une demi-dévotion, une délicatesse tronquée, comme tous les actes de cette malheureuse femme. Thérèse, qui gardait un culte fidèle mais stérile à la sainte, avait attaché au cou de sa fille cette relique, sans lui dire que les cheveux, coupés par elle-même, avaient appartenu à Madame de Champmasse. impossible de produire avec ce médaillon aucun effet capable d'attendrir, pendant 100 représentations, Clampin dit pistolet et les lettrés de sa force. Suavita reprenait sa pantomime au point où elle avait été interrompue. Si elle apportait le médaillon, c'était pour forcer Paul à prononcer le nom de Thérèse Soulas. Ceci rentrait dans leur façon de converser. Paul, en effet, savait d'où venait le médaillon, nomma Thérèse Soulas. Suavita n'attendait que cela. Elle montra de la main le fusil d'abord, puis Paul lui-même, et ce double geste fut si terriblement significatif que Paul s'écria « Thérèse est morte assassinée, et on m'accuse de ce crime !» Suavita joignit les mains et les posa sur son cœur. « Pas moi !» criait ce mouvement, plein d'une confiante adoration. Puis ses yeux supplièrent, puis encore elle montra la porte. « Fuir !» dit Paul avec imagination. Elle s'agenouilla, suppliante, et prit sa main, qu'elle porta jusqu'à sa bouche. Paul restait pensif. Il songeait à cette réunion qu'il avait vue au château Neuf-Gorée. Malgré lui, et sans aucun motif pour cela, il reliait ses hommes au meurtre de Thérèse, et à ce fait qu'il était lui-même accusé. Mais sa raison se révolta bientôt contre ces capricieuses hypothèses. C'était d'aujourd'hui seulement que ces hommes pouvaient le regarder comme un ennemi, et... Quant à Thérèse Soulas, quel ombrage cette pauvre femme pouvait-elle leur porter? Pour tuer, il faut haïr ou craindre. « J'aimais Thérèse, dit-il enfin. Je faisais mieux que l'aimer, j'avais pour elle de la reconnaissance. Ma mère est morte dans ses bras, et elle fut bien bonne pour vous, ma fille, au temps où je ne pouvais vous soigner. » Suavita répondit avec son regard profond et triste. « J'ai pleuré pour elle, et je l'ai pleurée. » « Mais est-ce vrai ? S'écria Paul. « Qui vous a dit cela ? Qui avez-vous vu ?» Il sentit son bras serré, comme toujours, quand la fillette voulait marquer une de ses questions. Il ne manquait guère de prendre garde à ce geste, qui était un de leurs plus sûrs moyens de s'entrecomprendre. Mais cette fois, une pensée subite l'emporta. Il songea tout à coup aux gens qui disaient derrière lui dans le village « Il a encore le fusil ». Il songea à l'air que son domestique normand avait en lui demandant s'il n'était point monté ce jour-là à la belle vue du fou. À la belle vue du fou. La figure de ce sauvage braconnier qu'il avait aperçu un instant entre les branches lui revint, et le coup de feu entendu à la fin de sa conversation avec Isole. Et ce mot de la vieille servante, « J'ai bien pensé que vous n'auriez point le cœur à l'appétit ». Pendant qu'il réfléchissait, Suavita dégagea son bras doucement et retourna vers la table où elle prit la plume, de nouveau. Paul ne faisait plus attention à elle. Il se perdait en un dédale de pensées où nul fil ne pouvait le guider. Suavita, encore une fois, mouilla sa plume d'encre. Sa main, molle et indécise, comme celle d'un enfant qui ébauche son premier essai d'écriture, balbutia lentement sur le papier. Elle fit plusieurs tentatives et déchira plusieurs feuilles, mais enfin elle bondit sur ses pieds et s'élança vers Paul en agitant le lambeau de papier qu'elle tenait à la main. Paul le prit et lut avec peine, tracé en caractères mal formés, ces deux seuls mots « mon père ». Il ne comprit point. Il crut que la fillette l'appelait son père et cela fit naître en lui une singulière émotion où il y avait de la joie et du regret. Il tendit les bras à Suavita, qui le repoussa avec colère. Le regard de l'enfant transperçait sa pensée et devinait son erreur. Ce ne furent plus ses yeux seuls, ce fut tout son être qui protesta, disant, criant en quelque sorte, tant la mimique était véhémente. « Pas vous, pas vous !»« Tâche de t'expliquer, chérie, dit Paul. Voyons, essaie. » C'était difficile. Les signes, ici, ne suffisaient point. Les signes ne racontent pas, quant au point de départ de la pantomime, il n'y a pas un fait acquis servant de lien entre les deux intelligences. Et il fallait ici raconter. La pauvre fillette avait mis trop de temps à tracer ce mot « mon père » qui était la réponse directe à la dernière interrogation de Paul. « Qui vous a dit cela? Qui avez-vous vu ?» Paul avait été distrait depuis lors par d'autres pensées. Il ne se souvenait plus de sa question. Suavita essaya de raconter, elle entreprit avec une fougue inouïe d'expliquer ce qui n'était pas explicable, l'entrée d'un étranger dans la maison, sa surprise, sa joie à la vue de son père, la douleur terrible qui lui avait brisé l'âme en apprenant que Paul était accusé du meurtre de Thérèse Soulas, je vous le dis, l'impossible. Et pendant qu'elle s'efforçait, Paul, ébloui par la multiplicité de ses gestes intraduisibles, par l'éloquence de ses yeux, par la passion qui jaillissait hors d'elle, admirait cette transformation. Tout renaissait chez Suavita, la vie, l'intelligence, la force, tout, excepté le pouvoir de parler. Et encore, il y avait un symptôme étrange. Et depuis le jour où Paul l'avait couchée pour la première fois sur le pauvre lit de sa mansarde dans la rue de Jérusalem, Paul ne se souvenait point d'avoir jamais vu la fillette faire effort pour parler. Et maintenant ses efforts se renouvelaient, se rapprochaient. Dans l'impatience, dans la douleur qu'elle avait de n'être point comprise, Suavita montrait sa bouche avec désespoir. Il semblait qu'un lien allait se briser, une parole s'élancer. Le domestique normand ouvrit la porte et dit « Il y a une dame qui attend dehors, elle est venue à cheval. » Ce fut comme un souffle de tempête qui balaya la tendre émotion de Paul. Suavita l'entoura de ses bras et ses grands yeux si éloquents supplièrent « Ne va pas, oh, ne va pas, je t'en prie !» Il se dégagea doucement en disant « Attends-moi, je vais revenir. » Son cœur bondissait dans sa poitrine et le nom d'Isole montait jusqu'à ses lèvres.